avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, l'école à la radio, salut à tous. Pour les enfants qui sont en vacances, quelques petites révisions avec chaque jour des enseignants qui ont une longue expérience pédagogique et qui partagent leur méthode. Aujourd'hui, des mathématiques avec Gérard Sansfaute. Bonjour Gérard.
Bonjour, je suis vraiment ravi, comme à chaque fois, de vous retrouver, Emmanuel et tous ceux qui nous écoutent.
Et moi, je suis très contente aussi de vous retrouver. Évariste, qui est à Bafoussam, au Cameroun, nous dit bonjour Gérard. Vos exercices de maths sont très bons. En suivant les enfants, les résoudre, on se sent tout à fait à l'aise dans le contrôle de leur raisonnement, des solutions à apporter. Et puis il y a Méline aussi qui a 10 ans aujourd'hui. Elle est à Sémé dans le sud-est du Bénin. Joyeux anniversaire Méline. Et puis un message d'Ali Kumba.
Bonjour 7 milliards de voisins. Bonjour Emmanuel, je m'appelle Abi Kumba. J'ai 10 ans et je suis en classe de CM2. On adore jouer avec ma grand-mère parce qu'elle nous envoie des notifications de 7 milliards de voisins. On s'amuse beaucoup en écoutant vos podcasts. Merci.
Voilà, eh ben merci à toi, Abi Kumba. Donc vous avez tous noté, toutes les émissions sont à réécouter en podcast à votre rythme, si parfois ça va trop vite pour les plus petits. Une question d'Aboubacar à Bamako au Mali. Ça c'est pour vous, Gérard Sansfaute. Quelle est, je vous vois inquiet, quelle est la différence entre le carré et le double d'un nombre ? Par exemple, nous dit Aboubacar, quand on dit le double de 4, de 2, pardon, quand on dit le double de 2, c'est 4. Or, le carré de 2, c'est aussi 4. C'est ça qui me trouble.
Ah, oui, parce que oui. Le problème là, c'est que le double de 2 implique une addition.
Voilà.
2 plus 2
ça fait
égale
4.
4.
On est d'accord.
Alors que 2 au carré, ça implique une multiplication. 2 multiplié par 2 égale 4. Mais le cas de 2, il est vraiment particulier. Parce que son double, 2 plus 2, c'est égal à son carré, 2 multiplié par 2. Mais c'est pas la même chose pour les autres nombres.
Si on prend 3, 3 au carré, il n'y a pas du tout cette confusion. Et donc Aboubacar ne devrait pas être troublé parce que le double de 3, c'est 6. Mais 3 au carré,
c'est 9.
C'est 9, donc c'est bien différent, le carré et le double.
2, il est vraiment particulier, il ne faut pas qu'il se laisse troubler par ça.
Voilà. Aujourd'hui, avec vous Gérard Sansfaute, il est question de la règle de 3. Ça peut aussi intéresser d'ailleurs des adultes, Gérard.
Ah ben oui, et l'important quand même aujourd'hui, ça va être premièrement de reconnaître une situation de proportionnalité, c'est-à-dire où tout augmente dans les mêmes proportions. Et deuxièmement, lorsqu'on a reconnu une situation de proportionnalité, de mettre en place une procédure adaptée pour trouver la quatrième proportionnelle. C'est le nombre qui manque. Alors, bien souvent, je vais vous dire, on pense que la règle de 3, c'est un truc.
Ah bah oui, parce que Issa là, nous a posté le message de Dakar, la règle de 3, c'est ma bête noire.
Et il y a des adultes qui se disent, c'est pas fait pour moi. Parce qu'on pense que c'est un truc à trouver pour avoir la solution. Et on pense que c'est pour les bons en maths qui vont trouver. Et les autres qui vont se dire, à un moment donné, la règle de 3, c'est pas pour eux. Alors aujourd'hui, mon but, c'est que je voudrais justement arriver à faire penser à plus de personnes que la règle de 3, c'est pour tout le monde. Les mathématiques, c'est pour tout le monde. Oui. Parce que les mathématiques, c'est pas un dressage, comme s'imaginent certains. C'est les animaux qu'on dresse. Mais les mathématiques, c'est un monde très intéressant à découvrir. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu aborder la règle de 3. Et avec les maternelles, même pour commencer.
Avec les maternelles, on peut commencer à aborder la règle de 3.
Bon. Même si ce n'est pas au programme de la maternelle. Et vous verrez qu'en fait, on pratique la règle de 3 en maternelle, mais sans le dire aux enfants. Et il y a même plein de choses qu'on aborde en maternelle, presque tout.
Alors, on va voir aussi les situations de proportionnalité avec les moyens, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, et puis avec les plus grands aussi. Il y aura un petit casse-tête, j'espère qu'on aura le temps de poser le problème à la fin de l'émission. Le matériel très très simple avec Gérard Sansfaute, des feuilles et un crayon ou une ardoise et de la craie. Allez, c'est parti.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, l'école à la radio.
On démarre, Gérard, avec les plus jeunes de la maternelle au cours préparatoire ou alors ceux qui vraiment étaient tellement bloqués sur les situations de proportionnalité qu'ils ont besoin de tout reprendre à zéro. Et ce n'est pas une tare, hein, vous l'avez dit.
Non,
il faut se déstresser avec les maths. Alors, on commence.
Alors, nous allons commencer par faire un schéma. Alors, un schéma, ça se fait rapidement. Alors,
oui,
vous dessinez.
C'est pas du dessin artistique. Hein.
En mathématiques, on veut aller très vite, on va à l'essentiel. Alors, les enfants, vous dessinez rapidement un lion. Alors, un dessin rapide, on fait juste un ovale pour le corps.
D'accord.
Allez-y.
Je suis en train de le faire. Hein. Un ovale,
voilà,
pour le corps.
Et un cercle, un rond pour la tête.
D'accord.
Allez-y. Et pour les quatre pattes, juste 4 traits, ça suffit.
D'accord,
pas
on fait,
plus
on fait
de
pas
détails.
La queue, d'accord.
Pour, nous, pour les mathématiques, là, on n'a besoin que de 4 traits,
d'accord.
Plus 2 yeux.
Ah, quand même 2 yeux, d'accord.
Bon, à la limite, une queue, si vous voulez,
d'accord.
Pour vous
non,
faire
d'accord,
plaisir.
D'accord, c'est bon, j'ai un lion. Enfin, ça, pour,
voilà.
Dans mon imagination, j'ai bien un lion, un ovale, un cercle, les 4 pattes et les 2 yeux. Vous avez bien noté, les enfants, hein, vous avez bien dessiné les 4 pattes du lion et les 2 yeux.
Alors, maintenant, comme notre lion a 2 yeux, vous écrivez 2 au-dessus du lion.
D'accord.
Alors juste le 2, et s'il y a des petits qui ne savent pas écrire, un grand peut leur écrire, parce que ça peut être écouté par des tout-petits.
Ouais. Alors gardez de la place soit sur une deuxième feuille ou sur l'ardoise, parce qu'on va dessiner d'autres lions après.
Voilà. Et pour l'instant, comme notre lion a 4 pattes, vous écrivez 4 en dessous du lion.
D'accord.
On a donc, pour le moment, un 2 au-dessus du lion, qui veut dire 2 yeux. Et en dessous du lion, on a un 4, qui veut dire 4 pattes. Voilà, ça c'est la première partie de notre schéma. Maintenant, sur une autre feuille, ou à côté, si vous avez beaucoup de place, parce que ça va demander un petit peu de place, vous dessinez autant de lions que vous voulez, mais je veux 6 yeux.
Ah.
Alors, un œil, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, on dessine un premier lion, hein, avec toujours la méthode rapide, l'ovale, la tête, et donc il y a déjà 2 yeux.
Mais il faut continuer.
Et il faut continuer jusqu'à 6. Alors,
jusqu'à
on dessine
6.
Un deuxième lion, et on a à nouveau 2 yeux. Les plus petits, si vous savez déjà additionner, 2 yeux plus 2 yeux, on compte 1, 2, 3, 4. Ah, il en manque. Parce que Gérard demandait 6 yeux. On dessine un troisième lion. On rajoute la tête, les 2 yeux. Et là, si on compte, on a bien les 6 yeux demandés par Gérard.
Voilà. Ben, c'est bien. Alors vous, maintenant, vous écrivez 6 au-dessus des lions. Car il y a 6 yeux. Donc, il y a le dessin et vous avez écrit 6. Alors maintenant, moi, sur tous vos dessins, je vois 3 nombres. Sur le premier dessin, 2 et 4. Alors c'est 2 pour les yeux et 4 pattes pour le lion tout seul. Et sur le deuxième dessin, le 6. Le 6, ben c'est les 6 yeux qui sont marqués sur le deuxième dessin.
Ouais.
Alors on a maintenant sur notre schéma 3 nombres. Et moi, je vais vous demander de trouver un quatrième nombre. Eh bien, ce que je vous demande, c'est de trouver le nombre de pattes sur le deuxième dessin. C'est ça le problème.
Ouais.
Quel est le nombre de pattes sur le deuxième dessin? Et écrivez-le.
Donc, le quatrième nombre manquant. Alors là, les plus jeunes vont compter le nombre de pattes. S'ils ont bien dessiné les lions comme la première fois, ils ont le bon nombre de pattes. Il suffit
voilà.
de les compter. Hein.
Voilà. Alors, il suffit de les compter. Donc, c'était la méthode qu'on suivait dans cette première partie. Le schéma nous permet de trouver le nombre de pattes. Il y en a 12. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 pattes. On a résolu une situation là, de proportionnalité, tout simplement,
ah oui,
grâce au schéma, sans savoir. On fait ça en maternelle.
Oui.
Donc c'est un dessin tout simple et les maternelles ont résolu une situation de proportionnalité.
Et donc finalement, ce dessin-là, c'est ce qui va conduire au début du collège au fameux tableau en croix où on a la méthode pour faire la règle de 3. C'est exactement la même chose.
Et on aura d'autant plus de chances de comprendre au collège qu'on aura fait ça en maternelle et qu'on aura compris ces situations.
Ouais, bon, ça, c'est très intéressant pour les parents qui nous écoutent de mieux comprendre comment initier leurs enfants à des situations de proportionnalité. Alors, pour ceux qui sont un peu plus âgés maintenant, Gérard.
Ah, alors, maintenant, pour ceux qui sont en primaire, mais les maternelles peuvent continuer à écouter. Alors, vous, les plus grands, vous avez compris que les plus jeunes ont trouvé, parce qu'à chaque fois qu'on a ajouté un lion, on ajoutait aussi 4 pattes. Eh bien, maintenant, nous allons essayer de trouver sans faire de dessin. Alors, voilà le problème que je vous propose, qu'on va essayer de faire cette fois sans faire de dessin.
Mais on fera un tableau quand même.
Il y aura un tableau.
D'accord.
À faire. Mais on ne va pas dessiner les objets.
Alors, écoutez bien l'énoncé de Gérard Sans Faute.
Un marchand de livres propose les tarifs suivants. 10 livres pour 15 euros. Combien vais-je payer pour 30 livres ? Alors, on le répète peut-être.
Un marchand de livres propose les tarifs suivants. 10 livres pour 15 euros. Combien vais-je payer pour 30 euros ?
Pour 30 livres.
Pardon, pour 30 livres, excusez-moi.
Voilà. Alors, dans ce problème, plus j'achèterai de livres, plus en proportion je vais payer cher. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît la situation de proportionnalité. Le prix va augmenter dans les mêmes proportions. Et dans ce problème, nous avons 3 nombres, le 10, le 15 et le 30, qui vont nous permettre de trouver le 4e nombre. Donc, c'est comme ça qu'on peut parler de règle de 3. Alors, nous allons trouver ce 4e nombre, comme je vous l'ai dit, non plus avec un schéma comme on faisait tout à l'heure, mais avec un tableau.
Ouais.
Et pour cela, il va falloir dessiner un tableau avec 4 cases. Alors, je vais vous demander de dessiner ce tableau avec 2 cases en haut, et 2 cases en bas.
Voilà, alors, un tableau à 4 cases, hein, c'est très facile.
Voilà, on fait, mais avec 2 cases en haut, 2 cases en bas, tracez-le.
Alors, on commence par la gauche, la case de gauche.
Alors, on va commencer par la case en haut à gauche. On va écrire le nombre de livres.
Alors, donc, le nombre de livres, c'est bien 10.
C'est, hein, 10, donc on écrit 10 en haut à gauche. Et vous écrivez en haut à droite, 30, parce que ça sera le nombre de livres. On se demande quel prix on va payer. C'est les 30 livres.
Ouais.
Donc ça, vous l'écrivez
en
haut à
droite. Donc il y a une ligne avec les 10 livres et les 30 livres. Et puis, les 2 cases d'en dessous, bah, ça va être des euros. Ça va être de la monnaie, de l'argent. Hein ?
Voilà, c'est
j'imagine.
Ça. Oui.
Donc, sous les 10 livres, on va écrire les 15 euros. Parce que c'est bien ça le prix des 10 livres. Hein.
C'est ça, tout
mais
à fait.
Mais sous les 30 livres, eh ben là, on ne va rien écrire du tout parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter.
Voilà. Alors, on n'écrit rien ou on met un point d'interrogation parce qu'on ignore le prix de ces 30 livres. Et c'est ce qu'on voudrait trouver. Alors, maintenant qu'on a ces nombres dans le tableau va nous aider à trouver la réponse. Parce que regardez en haut. Nous avons 10
livres
et 30.
Et 30, oui.
Alors, 30 livres, c'est 10 livres plus 10 livres plus 10 livres.
Oui.
On additionne 3 fois.
Oui.
Donc, on peut écrire au-dessus du tableau 10 plus 10 plus 10. C'est ce qui permet de passer du 10 au 30.
Oui, on est d'accord.
Alors, comme chaque paquet de 10 livres coûte 15 euros, on sait que le prix pour les 30 livres, ce sera 3 fois, alors 15
voilà,
euros.
On fait la même chose.
Plus 15 euros, plus 15 euros, on fait la même addition
que pour
avec
les
le 15, que pour le nombre de livres. Donc en dessous du tableau, on peut écrire 15 plus 15 plus 15. Et si on fait cette addition, si vous la posez, ou il y en a qui le trouvent en calcul mental.
Oui, parce que 15 et 15, ça fait 30. Plus 15, on trouve 45.
Et on trouve 45 et on peut compléter le tableau.
Donc 45, c'est le prix des 30 livres. Le 45, c'est ce qu'on va inscrire dans la case où on ne connaissait pas le prix.
Tout à fait. Alors, c'est ce tableau qui nous a permis de trouver en prenant le nombre. Et là, on a fait avec la méthode de l'addition.
Oui, mais là, vous l'avez fait un peu intuitivement, finalement, Gérard. Vous n'avez pas appliqué réellement la règle de 3, parce qu'avec 10 livres, c'était facile de chercher, de tâtonner pour arriver à 30. Hein.
Ben, on cherche comment passer d'une colonne à l'autre, et c'est une des procédures qui peut nous servir pour résoudre une règle de 3 avec l'addition. Mais on voit aussi que pour passer de 10 à 30... Il y a trois fois plus de livres, donc on peut multiplier par 3.
Ah oui.
Donc si on fait 10 multiplié par 3, ça fait 30. Eh bien, là, c'est la deuxième méthode par la multiplication. Et on peut écrire encore au-dessus du tableau M3, qui veut dire multiplié par 3. Et on passe de 10 multiplié par 3, 30 au 30 en multipliant par 3. Et cette deuxième méthode, on fait la même chose en bas. On part du 15, on multiplie par 3, 15 multiplié par 3 égale 45. Donc là, on a fait les deux méthodes. On vient de faire la multiplication et juste avant l'addition. Ça nous fait deux méthodes pour résoudre la règle de 3.
Alors, si on avait une calculette et si on avait des chiffres beaucoup plus difficiles qui ne vous auraient pas permis, Gérard, d'avancer par tâtonnement, on aurait pu faire aussi 15 divisé par 10 pour trouver le prix d'un seul livre. Hein, ça nous aurait donné 1,50€. Et avec le prix d'un seul livre, pour trouver le prix de 30 livres, il n'y avait plus qu'à faire une simple multiplication.
Tout à fait. Donc, les plus grands peuvent faire la méthode que vous venez de décrire. Moi, j'en ai moins parlé parce qu'on l'aborde plus en fin d'école primaire. Mais c'est la méthode rapide à laquelle on arrive. Mais c'est bien dans certaines situations de passer aussi par ce que j'ai indiqué, l'addition, la méthode par l'addition et la méthode par la multiplication.
Alors, on a le temps de faire un problème d'ouvriers qui construisent un mur, le mur de 60 mètres, là. On va peut-être laisser de côté le problème du pain et de la farine, mais le mur de 60 mètres, est-ce qu'on s'y met, Gérard ?
Alors, ce problème-là, alors, je peux commencer par le lire. Alors, je lis l'énoncé. 18 ouvriers ont fait un mur, ont fait 60 mètres d'un mur.
Oui.
Combien 30 ouvriers feraient-ils de mètres du même ouvrage ? Alors, c'est bien. Alors, on peut le relire peut-être une deuxième fois que vous puissiez noter les
18
nombres.
Ouvriers ont fait 60 mètres d'un mur. Le mur, il sera peut-être plus long, hein, peu importe. Ils ont déjà fait 60 mètres d'un mur, ils étaient 18 à faire ces 60 mètres. Combien 30 ouvriers feraient de mètres du même ouvrage ? On est bien dans une situation de proportionnalité.
Parce que plus il y aura d'ouvriers, plus le mur sera long.
Oui, ça c'est
donc,
du bon sens.
Ça augmente dans la même proportion. C'est ça, reconnaître une situation de proportionnalité. Eh bien, de la même façon que tout à l'heure...
On fait toujours le tableau à quatre cases. Hein,
on fait le même tableau avec les quatre cases. Et à partir des trois nombres de l'énoncé, on doit obtenir le quatrième nombre.
Alors, ça veut dire que dans les deux cases du haut, on met les ouvriers. Hein ?
Alors, en haut à gauche, les 18 ouvriers. En haut à droite, les 30 ouvriers. Et dans notre tableau, en dessous du 18, en bas à gauche, on écrit les 60 mètres. Donc en haut, c'est le nombre d'ouvriers, oui. Et en bas, c'est la longueur du mur.
60 mètres.
Et dans la dernière case, tout en bas à droite, c'est ce qu'on nous demande de trouver.
Voilà, 30 ouvriers, combien de mètres de mur peuvent-ils construire? On ne sait pas. Donc cette dernière case, c'est l'inconnu à trouver.
Alors là, si on va aller plus vite, il y a trois méthodes pour trouver la réponse. La première méthode, si on fait... Alors, il y a plusieurs opérations à faire. Si on fait 60 divisé par 18,
ouais,
et multiplié par 30...
C'était la méthode que je proposais tout à l'heure.
Voilà. Mais on peut...
C'est-à-dire que 60 divisé par 18, ça nous donnerait, dans une première étape, le nombre de mètres...
Alors, ça serait le nombre de mètres fait par un seul ouvrier.
Voilà. Et
après, on multiplie par le nombre d'ouvriers. Mais comme ces opérations de division et multiplication, on peut les inverser, il y a une deuxième méthode en changeant l'ordre des opérations. On commence par multiplier 60 par 30. Et là, on le fait peut-être moins en raisonnant sur ce qui se passe, mais là, c'est plus mathématique en disant qu'on peut inverser la multiplication et la division.
Oui, ça, comme vous dites, ça se rattache moins à ce qui se passe dans le problème quand même, à la réalité de ce qui se passe. Moi, je trouve, mais bon,
et c'est là
c'est pas la méthode que je préfère, personnellement.
Et c'est là qu'on peut se dire... Oh, les maths, c'est pas pour moi, je comprends pas. Il faut avoir bien réfléchi
parce
à la situation.
Parce que là, vous multipliez des mètres avec des ouvriers.
Voilà. Hein ? Mais dans des calculs, ça permet d'avoir des calculs qui ne... Quelquefois, quand on commence par la division, on a un résultat qui ne finit pas. Un résultat qui n'est pas juste. Donc, ça permet d'éviter ces nombres qui n'en finissent pas et on a une réponse qui ne tombe pas juste.
Alors, les enfants ont toujours le tableau là sous les yeux. Donc, vous faites 60 multiplié par 30. Hein. C'est bien ça, avec votre méthode. Et ensuite,
on divise
par
18.
Le dernier nombre qui nous reste, 18.
Et ça fait 100.
Et ça fait 100. Et donc, ce qui veut dire que il faut 100 personnes,
30 ouvriers,
30 ouvriers pardon,
feraient 100 mètres de
100
mur.
Mètres. 30 ouvriers fabriquent 100 mètres de mur.
Et notre résultat est logique, parce qu'il y a plus d'ouvriers. Et au lieu de faire 60 mètres, maintenant, ils font 100 mètres. Il y a aussi le problème de vérifier que notre résultat est plausible.
18 ouvriers pour faire 60 mètres, 30 ouvriers, c'est nettement plus. Donc, ils parviennent à faire 100 mètres.
Voilà.
Et il y a une troisième méthode aussi, Gérard ?
Alors, on peut aussi multiplier 60 par 30 18e. Alors... c'est encore les mêmes calculs, mais on le présente sous la forme d'une fraction. Quand on multiplie par la fraction 30 18e, on multiplie par 30 et on divise par 18. Et là, c'est le coefficient qui permet de passer d'une ligne à l'autre.
Donc là, c'est finalement un changement d'écriture seulement.
C'est ça. C'est une autre façon de l'écrire. C'est plus au collège qu'on aborde ces façons de présenter et en CM2. Donc, ces méthodes, elles nous permettent d'aller plus vite. Mais l'important, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était surtout de comprendre la situation de proportionnalité et on peut trouver quelquefois des façons simples de résoudre.
Et de bien se souvenir qu'on est dans une situation de proportionnalité et donc de règle de 3 quand on a 3 chiffres Et qu'il en manque un quatrième. C'est bien ça,
voilà.
Gérard.
À chaque fois, c'est comme ça.
Et donc, avec la méthode du tableau, vous êtes déjà sur la bonne voie. On va terminer avec un cas particulier plus difficile pour ceux qui aiment bien le remue-ménage. Gérard, je vous laisse la parole.
Oui, et on ne va peut-être pas donner la solution à la fin. Ça sera à vous de chercher, ce n'est pas facile.
Et on attend bien sûr les réponses sur notre compte WhatsApp, sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, parce qu'on va vous mettre l'énoncé du problème sur nos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, vous pourrez nous répondre sur Facebook et sur le compte WhatsApp au 33 7 64 45 51. 41. Allez, c'est parti.
Alors,
un casse-tête.
Voilà l'énoncé. Un entrepreneur fait construire une maison en 60 jours avec 15 ouvriers. 6 personnes tombent malades. Trouvez la durée des travaux.
Je relis. Un entrepreneur fait construire une maison en 60 jours avec 15 ouvriers. 6 personnes tombent malades. Trouver la durée des travaux.
Alors là, on pourrait dire à la limite que dans une situation réelle, ça serait plus compliqué et qu'un ouvrier, à lui tout seul, il pourrait être indispensable et que les travaux, il ne pourrait pas reprendre. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de solution à notre problème. Mais on va prendre le cas où chaque ouvrier fait une partie du travail et chaque ouvrier est interchangeable avec un autre ouvrier. Si le nombre d'ouvriers diminue dans notre cas, si on réfléchit bien, on comprend que le nombre de jours de construction va augmenter.
Oui, ça, il n'y a pas besoin d'être un génie en maths. Hein. Tous ceux qui se sont fait construire leur maison le savent. S'il y a moins d'ouvriers, ça va aller plus lentement.
Ça ne va pas varier dans le même sens, alors que tout à l'heure, tout augmentait dans le même sens.
Donc,
ce n'est pas proportionnel. Et c'est même inversement proportionnel. Donc là, c'est plus compliqué à trouver. Et là, je vous laisse un petit peu chercher et réfléchir.
Si vous êtes dans les embouteillages, je vais vous relire très rapidement l'énoncé. Un entrepreneur fait construire une maison en 60 jours avec 15 ouvriers. Seulement, voilà, 6 personnes tombent malades. Donc, on passe de 15 ouvriers à 6 ouvriers. Trouvez la durée des travaux.
Alors, on ne passe pas de 15 ouvriers à 6 ouvriers. Il y a 6 personnes qui tombent malades. Je vais vous faire avancer un petit peu dans le problème. Combien reste-t-il d'ouvriers sur le chantier ? Il y en avait 15, il y en a 6 malades. 15 moins 6 égale 9.
Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là, Gérard. On ne va pas donner la suite. Vous retrouvez la suite de... Alors d'abord, de la règle de 3 pour les plus grands avec la leçon de Laurence. Hein. Vous pouvez réécouter la leçon de Laurence Gérard, toujours sur la règle de 3. Le lien est sur notre page. Et puis, bien sûr, on donne la réponse à ce problème sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Gérard Sans Faute. On était très heureux de vous retrouver.
Ah, mais c'est moi aussi. J'étais très content. Merci, au revoir à tout le monde.
À très bientôt pour l'école à la radio. Dans quelques instants, on retrouve le duo canadien Raphaël et Massy de Radio-Canada. Ils nous parlent des conflits entre frères et sœurs avec des explications scientifiques, comme toujours. Mais tout de suite, Youssoufa et Gaël Faye.
C'est le karma qui nous guide et n'ayons pas peur d'être heureux. Je préfère être heureux que d'avoir raison. C'est le karma qui nous guide, n'ayons pas peur d'être heureux. Je préfère être heureux que d'avoir raison. Je préfère être heureux que d'avoir raison.
Je préfère être heureux
que d'avoir raison. Que d'avoir raison.
T'es quel camp, quelle équipe, t'es de la famille de qui? Je quitte les étiquettes, c'est le karma qui guide. Oh. Pierre Malakit, crime bien Malakish, kick. J'écris rime pacifiste Kigali Akin. Loin des bords du monde, je flotte dans le néant. Je bricole des cabanes éphémères, frères et des royaumes d'enfants, sœurs. Accordez-moi le bon, apportez-moi le don. Sortir de ce piège à con, d'avoir tort ou raison. La térite est devenue bitume, mon quotidien est un Rubik's Cube. J'ai beau me délester de mon vécu, malgré tout le passé reflue. La vie pas d'ardoise à laisser, que c'est coin de chatin se laisser. Fond de la classe, j'étais mal assis, eux font du sale, je fais ma lessive. Ok.
C'est le karma qui nous guide et n'ayons pas peur d'être heureux. Je préfère être heureux que d'avoir raison. C'est le karma qui nous guide, n'ayons pas peur d'être heureux. Je préfère être heureux que d'avoir raison.
avoir raison. Je préfère être heureux que d'avoir raison. Que d'avoir raison.
Je préfère être heureux
que d'avoir raison.
Et tout de suite, les débrouillards, pour tout regarder avec un œil scientifique. Aujourd'hui, Raphaël et Massy vous expliquent sur RFI pourquoi entre les frères et sœurs, c'est pas toujours simple.
Hey Massy, il y a ma sœur qui voulait voir comment ça se passe, un enregistrement. Est-ce que ça dérange si on fait une vidéoconférence avec elle pendant l'épisode?
Je refuse, Raph. Mais non, il n'y a pas de problème. Là.
OK, c'est bon, je vais l'appeler.
Allô?
Salut, ça va?
Oui, toi?
Oui, hey, tu voulais voir notre studio, alors voici, micro, téléphone, table, chaise.
Wow, mon Dieu, c'est donc bien grand.
Et là, c'est Massy.
Hey, hey!
Ah, il est encore plus beau en vrai, hein?
OK, alors là, on va faire le silence parce qu'on va commencer l'épisode.
OK, OK.
T'es prêt, Massy?
Oui.
Ah, il n'y a pas plus de monde que ça. Ah, oh, ben, je pensais que c'était une plus grosse équipe.
Non, excuse, silence, là, s'il te plaît, on essaie de se concentrer avant.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu fermes les yeux pour te concentrer? Ben là, c'est un peu exagéré, non? Moi, mon prof de méditation t'aurait plutôt suggéré...
Hé hey là, arrête, là! L'épisode est sur le point de commencer.
OK, OK, je dis plus rien.
C'est parti! Salut, je m'appelle Raphaël.
Et moi, c'est Massy.
Vous écoutez le guide de survie des débrouillards.
Le balado scientifique qui vous aide à faire face aux situations périlleuses et désagréables qui vous guettent à chaque instant.
Comme des petits frères ou des petites sœurs, ou des grands frères ou des demi-sœurs. Bref, la fratrie.
La quoi?
La fratrie, ça veut dire l'ensemble des frères et sœurs d'une famille.
Mais la fratrie peut être source de bien des chicanes. On va essayer de comprendre pourquoi et quels sont les trucs pour y survivre avant que ça dégénère trop. Et il faut se rappeler, Raphaël, que des frères et sœurs, c'est pas condamné à s'obstiner. On peut tous unir nos forces pour accomplir de grandes choses.
Oh boy, je suis pas rendu là. Ah, oh, ma sœur me rend tellement folle des fois. J'en viens pas qu'on soit si différentes, même si on a les mêmes parents.
C'est vrai que c'est particulier. Avec mes sœurs, on est différents, mais en même temps, on se ressemble. Je veux dire, j'ai les mêmes cheveux que Zora, j'ai les mêmes yeux qu'elle, mais pour l'autre sœur, ben, on a la même couleur de peau, je dirais.
Ouais, mais ça, c'est à cause de la génétique. Hein. Ça, c'est au cœur de nos cellules. C'est là que se trouvent nos gènes. Et on a tous environ 20 000 gènes. C'est notre code génétique. C'est un peu le manuel d'instruction qui sert à nous fabriquer.
Ben, c'est vrai que nos gènes viennent de nos deux parents et déterminent la couleur de nos yeux et de nos cheveux.
Ah oui, mais plein d'autres éléments de notre apparence physique aussi, comme la forme de tes orteils. Et nos gènes déterminent aussi, en partie, notre tempérament. Est-ce qu'on est plutôt calme ou agressif? Comment on réagit au stress, etc.? Donc, nos parents nous transmettent leurs gènes au moment de la conception, quand le spermatozoïde de l'homme féconde l'ovule de la femme. Mais attention! Chaque spermatozoïde et chaque ovule est génétiquement unique. Il n'y en a pas un pareil!
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Raph. Il y a genre une forme de hasard là-dedans, en fait. Chaque fois que les parents conçoivent un enfant, selon quel ovule et quel spermatozoïde se rencontrent, le résultat va être différent.
Oui, ton père et ta mère te donnent chacun une partie de leur gène, mais la combinaison exacte change à chacun de leurs enfants. Donc, chaque frère et sœur reçoit une poignée de gènes différents, mais qui viennent des deux mêmes sources, les parents. C'est pour ça que les frères et sœurs se ressemblent, mais qui ne sont pas pareils.
Et pour les vrais jumeaux identiques, les deux ont exactement le même bagage génétique, comme des clones. C'est parce qu'ils proviennent du même ovule et du même spermatozoïde, qui se sont divisés en deux après la fécondation.
Les faux jumeaux, par contre, ceux qui ne sont pas pareils, ils ne se ressemblent pas plus génétiquement que des frères et sœurs ordinaires.
Et si on est dans une famille reconstituée, il y a peut-être même certains enfants dans la maison qui n'ont aucun lien de parenté entre eux. Donc, ils n'ont aucun gène en commun.
C'est ça. Mais puisqu'ils partagent le même environnement familial, ça se peut qu'au fil du temps, ils développent des goûts, des habitudes ou des traits de personnalité qui se ressemblent.
Comme nous deux, Raphaël. Depuis qu'on anime ce balado, on est comme une grande famille. Le studio, c'est notre maison et le berceau des plus beaux souvenirs qui nous unissent.
Ah, oh, t'es quétaine!
Ok, Raph, on est tous différents malgré nos similarités, mais ça explique pas pourquoi nos frères et sœurs peuvent autant nous taper sur les nerfs.
Oh, moi, je peux très bien te l'expliquer.
Ouais, je sais, mais là, je te parle pas d'exemple ou de frustration personnelle, mais plutôt d'explication scientifique à ce phénomène.
Ah ouais, ok, t'aimerais parler à un spécialiste.
Figure d'expertise. Figure d'expertise, c'est plus beau.
Oui, figure d'expertise.
Ok.
Figure d'expertise!
Oui, allô?
Raphaël, je te présente la psychologue Florence Marcille Deneau.
Bonjour, enchantée.
Enchantée.
Ça va bien? Vous êtes en forme?
Oui, très bien, merci. Vous deux, vous êtes en forme?
Ah oui, on est très en forme et on a une question super importante parce que tu reçois beaucoup de jeunes à ta clinique. Est-ce que c'est normal de se chicaner entre frères et sœurs ou c'est juste un signe qu'il y a beaucoup de problèmes entre les deux?
Non, c'est complètement normal de se chicaner entre frères et sœurs. On n'a pas choisi d'avoir un frère ou une sœur. On est comme pogné avec. Et puis, des fois, notre frère ou notre sœur, il nous ressemble pas. Il a un tempérament différent du nôtre, genre, moi, je suis silencieuse, puis mon frère, il est genre tapageur, il bouge, il fait du bruit. Et quand nos tempéraments sont loin différents, ça se peut qu'il y ait plus de chicanes. Sinon, on peut se chicaner aussi parce qu'on partage les mêmes lieux, les mêmes espaces, les mêmes objets, les tâches domestiques.
OK, donc c'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on a le même tempérament génétique puis qu'on s'entend toujours bien. Ça se peut qu'on soit des contraires puis que ça fasse des tensions.
En fait. Exact. Plus il y a d'écart dans nos tempéraments, plus on va avoir de la misère à se comprendre. Alors ça peut vraiment générer des conflits. Puis même, c'est un peu tabou comme sujet, mais on sait, nous, en psychologie, qu'il y a des tempéraments qui sont comme plus faciles. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est ça. Et ça a un effet sur les parents. Il y a des parents qui, évidemment, donc, ils vont pas se comporter tout à fait de la même façon entre un enfant plus facile puis plus difficile. Puis ça, les enfants, dans la fratrie, là, entre frères et sœurs, ils le sentent et ça peut faire de la rivalité, ça aussi.
La différence d'âge entre les enfants, ça augmente ou ça diminue les conflits?
Quand on se rapproche en âge, il y a plus de conflits. J'ai vraiment un grand frère, écart d'âge important, il y en a moins. Puis il y a plus de conflits aussi quand on est plus jeune. Même qu'on dit qu'avant 8 ans, c'est très difficile de gérer nos conflits nous-mêmes. On a beaucoup besoin de nos parents. Après ça, on essaye de le faire ensemble. Oups, les conflits augmentent même au début de l'adolescence. Puis autour de l'âge de 14-15 ans, là, ça va comme diminuer tranquillement, pas vite. Savez-vous pourquoi?
Non.
Parce qu'on se voit moins. Ah! Fait que si on se voit moins...
Tout simplement.
On se chicane moins. Fait que là, ça devient tout d'un coup comme plus chaleureux, plus dans le support. Quand les relations sont harmonieuses, là, il n'y a pas tout le temps juste des conflits, c'est associé aussi avec même plus de motivation scolaire, plus grande estime. Mais juste aussi d'en avoir des frères et sœurs, c'est un lieu pour de l'affection. Ça te permet d'avoir des conseils. Quand on a un frère ou une sœur plus vieux, souvent, il va pouvoir nous aider vers l'adolescence.
Si on a beaucoup de conflits quand on est jeune avec notre frère, notre sœur, est-ce que à l'âge adulte, ça va continuer ou bien ça se peut que ça s'améliore avec le temps?
Écoute, c'est démontré que ça se calme. Comme je vous disais, il y a moins d'éléments de tension, il y a moins de conflits avec les parents aussi. Fait qu'avec l'âge, par la force des choses, ça se calme. Mais à plus long terme, c'est comme s'il y a deux tendances. Il y a la tendance d'avoir le choix tout d'un coup de couper les liens complètement. C'est triste, mais ça arrive. Ou alors, en vieillissant, ça peut nous rapprocher vraiment beaucoup aussi parce qu'on partage une histoire avec cette personne-là.
Hey, merci infiniment, Florence. C'est super intéressant, puis je pense que ça va m'aider à mieux comprendre ma sœur.
Ouais, Raph, on a besoin.
Salut.
Merci.
Merci. Parfois, les frères et sœurs peuvent s'unir pour accomplir de grandes choses.
Ça, c'est vrai, il y a plein d'exemples.
Comme les frères Wright.
Mm-hmm. C'était quoi déjà leur prénom?
Orville et Wilbur,
oui.
Qui avaient 4 ans de différence d'âge. Et ils sont seulement responsables d'avoir fabriqué le tout premier avion à moteur capable de voler.
Rien que ça!
Ouais, ça sonnait pas comme ça. C'était le 17 décembre 1903 et leur appareil était une sorte de planeur avec un moteur qui a pu voler pendant... 12 secondes à 3 mètres de hauteur. Ça peut paraître peu, mais à l'époque, on n'avait jamais vu ça. C'était un exploit!
Il y a aussi les frères Lumière, Louis et Auguste, qui sont nés à 2 ans d'intervalle. Ils sont considérés comme les inventeurs du cinéma.
Excuse-moi, le ciné, quoi?
Non.
Alors, à la fin du 19e siècle, il y avait plein d'autres inventeurs qui développaient des systèmes pour montrer des images qui bougent. Mais ce sont les frères Lumière qui ont eu l'idée de projeter ça sur un grand écran. Ils ont conçu un appareil qu'ils ont baptisé le cinématographe, qui était à la fois une caméra et un projecteur.
Facile d'inventer ça quand tu t'appelles Lumière. Ton nom de famille t'inspire déjà, je veux dire.
En plus, les frères Lumière ont épousé deux sœurs et ils auraient habité dans deux appartements identiques côte à côte. Vraiment, là, ils ont tout fait ensemble.
Wow! Plus récemment, sinon, il y a les sœurs Venus et Serena Williams. Ce sont des joueuses de tennis américaines qui se sont toutes deux retrouvées au sommet du classement mondial. Et elles ont souvent eu à s'affronter lors de grandes finales de compétition mondiale. Même si elles étaient parfois des rivales dans le sport, elles sont restées très complices dans la vie. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est parfois en compétition qu'on ne peut pas avoir une belle relation avec ses frères et sœurs.
Ah, c'est vrai. Puis faut pas oublier les frères Scott et Mark Kelly.
Hein? Je les connais pas. Attends, je vais chercher sur Internet. Ah, ils ont la même face!
Ben oui, c'est sûr, c'est des jumeaux identiques.
Ah, et qu'est-ce qu'ils ont fait?
En fait, c'est deux astronautes américains et ils étaient super pratiques pour la science.
Comment ça?
Ben, parce que comme ils sont jumeaux identiques, ils ont le même bagage génétique, donc leurs deux corps sont pratiquement pareils. Et cet atout-là a permis à la NASA de bien étudier comment se transforme le corps humain lorsqu'il vit plusieurs mois en apesanteur dans l'espace.
Wow!
Alors, Scott est allé un an en orbite dans la Station spatiale internationale. À son retour, les experts de la NASA ont comparé son corps avec celui de son frère jumeau identique qui, lui, était resté sur Terre.
Ah, comme quand il faut trouver les différences entre deux images.
Exactement. Alors, Scott était devenu un peu plus grand, ses yeux s'étaient un peu déformés et même, c'est précis ici, là, la paroi de certains de ses vaisseaux sanguins s'était épaissie.
Wow!
Alors, la science en a donc déduit que ces transformations-là avaient été causées par son séjour dans l'espace. Bon, heureusement pour lui, plusieurs de ces effets-là se sont atténués une fois de retour sur Terre. On a reçu quelques messages et je pense qu'on pourrait les lire et y répondre.
Ah, courrier du cœur.
Voici un premier témoignage.
Cher Massie et Raphaël, ma sœur arrête pas d'entrer dans ma chambre sans demander ma permission.
Hey, c'est-tu toi qui as mangé mes céréales?
Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et depuis quand c'est tes céréales?
C'est mes céréales!
Et c'est ma chambre! Va-t'en!
Bon, effectivement, ça a pas l'air facile. Premièrement, t'as le droit d'être fâché. Ta chambre, c'est ton espace à toi et c'est normal que t'aies pas envie que les autres fouillent dans tes affaires. Une fois que la colère est passée et que tu te sens prêt à discuter, prends le temps de bien expliquer ce qui te dérange à ta sœur et vous pouvez trouver une solution. Par exemple, la prochaine fois que t'as besoin de quelque chose dans ma chambre, demande-le-moi et je vais te le donner moi-même. Il y a un autre auditeur qui nous dit « Moi, je suis un enfant unique, je m'ennuie des fois tout seul, j'ai l'impression que je suis moins bon pour me faire des amis. »
C'est vrai, ça, les enfants uniques.
Ouais, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont tenté de voir si les enfants uniques, justement, développaient des capacités différentes des autres enfants. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. Les enfants uniques ont autant d'amis, d'autonomie, de maturité ou de leadership. Par contre, puisque les enfants uniques ont souvent toute l'attention parentale pour eux, ça peut les aider à avoir une meilleure confiance en soi. Ils seraient également plus persévérants et auraient une meilleure capacité d'adaptation. Donc, t'as pas à t'inquiéter.
Et on a reçu un dernier témoignage, Massie.
Cher guide de survie, c'est pas juste. Ma sœur a beaucoup moins de tâches ménagères que moi.
Quoi? C'est tellement pas vrai. J'en ai plus que toi. Tu sais pas compter.
Et toi, tu sais pas rapper. DJ, envoie la musique. Je fais la poubelle, je fais le compost pendant que toi, tu te fais belle. Je fais mon lit, je fais ton lit pendant que toi, t'as un appel.
Waouh. Je nettoie le sol, je nettoie les miroirs, je nettoie le lavabo, j'essuie ton bureau pendant que toi, t'es sur la console.
Tu me désoles, tu inventes. Je ramasse mon linge sale, je ramasse ton linge sale, je mets la table.
Tu mets la table?
Oui, madame. En plus du gazon.
Si aimable, t'as jamais touché au lave-vaisselle? Tu connais rien au lave-vaisselle? T'es devant ton jupe lave-vaisselle?
Je sais au moins me servir d'une pelle.
Wouh, bravo! Alors, pour répondre à la question, oui, ça peut paraître injuste, mais le gazon a souvent l'air plus vert dans la cour du voisin. C'est-à-dire que ce que les autres ont, ça nous paraît toujours plus beau que ce que nous, on a. Alors, c'est sûr que ça sera jamais égal. S'il y en a un qui s'occupe de tondre la pelouse et que l'autre vide le lave-vaisselle, c'est pas exactement la même chose. Mais l'important, c'est pas l'égalité. Faut pas qu'on ait exactement les mêmes tâches divisées en deux. Ce qui est important, c'est l'équité. Ça veut dire que vous avez des tâches équivalentes, adapté à votre âge ou à vos capacités.
Toujours en colère contre ta sœur, Raph?
Mais non, je comprends un peu mieux.
Est-ce que tu vas l'appeler pour lui dire, par exemple?
Ah, ouais.
Salut!
Salut! Écoute, pour tantôt, là, j'étais un peu bête. Là. Je m'excuse.
Mais non, c'est correct.
Hey, mon Dieu, t'es sûr que ça va?
Qu'est-ce qu'il y a?
Le teint vert. C'est ton enregistrement que t'épuises de même?
Sérieux?
T'es sûr que l'air en studio est bien filtré?
Oh!
Ah, c'est beau, la fratrie.
C'était le guide de survie des débrouillards, un balado de Radio-Canada Audio et du magazine Les Débrouillards.
Avec toi, Raphaël de Rome.
Et toi, Massy Mailloux.
Merci à Julie Champagne qui trouve les réponses à toutes nos questions et à Philippe Marois qui réalise le balado.
Yo, t'es comme un frère, bro!
Merci à nos invités Florence Marcille-Denot et Irlande Côté et à la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers pour tous ses conseils.
Et pour retrouver le podcast des débrouillards en format long, cette fois-ci avec encore plus d'explications, vous avez le lien qui vous oriente vers Radio-Canada sur notre page 7 milliards de voisins sur RFI.fr. On se retrouve demain, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. On retrouvera l'enseignante Marie-Christine pour mieux comprendre les familles de mots avec des activités aussi pour les plus jeunes. Et d'ici là, bien sûr, vos questions, vos commentaires sur les leçons et puis aussi sur les débrouillards au 33 7 64 45 51 41. Allez, on se quitte avec Bayana System. Voisins sur RFI, c'est la fin. Merci à toute l'équipe qui prépare l'émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast pour refaire par exemple les leçons de l'école à la radio avec vos enfants à leur rythme. Vous retrouvez les podcasts sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis aussi, on peut discuter ensemble sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Le compte, c'est 7 milliards RFI. Dans quelques instants, le journal.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.